Voici le journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Eric, bonjour à tous. À la une de l'actualité, un rassemblement aujourd'hui à Paris pour déstigmatiser le cancer. Le cancer, première cause de mortalité, un mot qui fait peur et dont les victimes se sentent bien souvent marginalisées. Dans l'actualité également, un 22e samedi de mobilisation pour les Gilets jaunes. Des Gilets jaunes qui ont choisi Toulouse aujourd'hui comme épicentre de leur mouvement. L'implantation du réseau 5G au niveau des réseaux mobiles déclenche une guerre mondiale après la Corée du Sud qui annonçait avoir pris les devants. Donald Trump entre à son tour dans la bataille, suivi de près par la Chine. Plus de peur que de mal sur les côtes charentaises, semble-t-il épargné d'une pollution massive. Pour le préfet du département, les conséquences du naufrage du Grande America semblent désormais maîtrisées. À 8h10, le journal des sports présenté par Fanny Lechevestrier et au sommaire, ces insultes racistes venant des gradins qui ont interrompu hier soir la rencontre de football Dijon-Amiens, insultes visant le capitaine Picard, Prince Guano. Enfin, à 8h20, la réunion des gauches à Stockholm, en compagnie de votre invité Éric Delvaux.
Oui, Mathilde Panot, députée de la France Insoumise. Question ce matin donc sur les traités européens que les gauches radicales voudraient bien renégocier. Elles en parlent effectivement, ces gauches radicales, ce week-end à Stockholm.
France Inter.
La maladie, tout autant que le mot en lui-même, font aujourd'hui encore très peur. Au point d'ailleurs que plutôt que de dire que telle ou telle personne est décédée, victime d'un cancer, car c'est bien de cette maladie dont il s'agit, on préfère bien souvent utiliser la périphrase « décédé » des suites d'une longue maladie. C'est pour déstigmatiser ce mot cancer, première cause de mortalité, faut-il le rappeler, que pour la première fois en France et ailleurs dans le monde, une cancer pride, entendez par là une marche pour le cancer, va avoir lieu en fin de matinée, place de la République à Paris. Une manifestation ayant pour la Ligue contre le cancer ou bien encore l'Institut Curie et dont le but va consister à rendre leur fierté aux malades et les aider à se montrer tels qu'ils sont. Il faut dire que le cancer reste une maladie difficile à assumer, tant par l'anxiété qui est associée que par le regard et l'attitude des autres. Une situation fort bien décrite par Stéphane que Véronique Julien a rencontré.
Militant de la cause des patients, Stéphane est aussi un ancien malade. En 2004, il a 34 ans, on lui découvre un cancer des testicules. Le diagnostic est posé suffisamment tôt, on lui dit très vite qu'il s'en sortira. Combatif, Stéphane prend le mal avec optimisme, mais le regard des autres est redoutable.
Systématiquement, le mot cancer fait ultra peur et c'est rédhibitoire le regard des gens. Dans les yeux, on voit bien mon pauvre gars, quoi. C'est fini pour toi, quoi. Quand on parle du mot cancer, la première chose que les gens voient, c'est la mort.
Même si le pronostic est bon pour Stéphane, le traitement est dur, il perd ses cheveux. La mode est au crâne chauve, façon Fabien Barthez, ça passe donc plutôt inaperçu. C'est quand il perd ses sourcils qu'on le remarque davantage. Au boulot, c'est la compassion.
J'allais en chimio le matin et l'après-midi, je travaillais. C'est quand j'ai perdu mes sourcils où là, j'ai commencé à avoir des regards un petit peu particuliers. Non, mais Steph, c'est pas la peine de venir sur cette réunion, on va se débrouiller sans toi, etc. Donc, les gens le font pour vous préserver. Par contre, quand on est le malade, voilà, on se sent éjecté de certaines choses.
En France, près de 4 millions de personnes vivent avec un cancer, en traitement, en rémission ou guérie. Après le cancer, le combat continue pour reprendre sa place en entreprise ou pour obtenir un prêt auprès de sa banque notamment.
Véronique Julia, j'ajoute que 60% des cancers détectés à temps s'acheminent aujourd'hui vers la voie de la guérison. Une cancer pride donc, dont le rendez-vous est donné à Paris, place de la République à midi.
Et une place de la République parisienne qui va décidément être très fréquentée aujourd'hui, puisque c'est là aussi que la Ligue des droits de l'homme appelle à manifester dès 14h contre la loi anti-casseurs. Et on rappelle qu'il y a aussi ce 22e samedi de mobilisation des Gilets jaunes.
Des Gilets jaunes qui, dans l'attente des mesures annoncées par Emmanuel Macron, a priori dans les jours à venir, comptent bien aujourd'hui encore faire entendre leur voix. Des Gilets jaunes qui ont, semble-t-il, choisi Toulouse comme épicentre de leur mouvement ce samedi. Toulouse où les commerçants ne cachent pas leurs craintes, mais ont toutefois décidé de garder leur rideau ouvert tout en s'organisant. Les précisions du président de la Fédération des commerçants de la ville, Jean-Marc Martinez, au micro de Stéphane Garcia de France Bleu Occitanie.
Et il est hors de question de laisser le champ libre de le centre-ville à Toulouse comme un champ de jeu pour les Gilets jaunes. Et ça, c'est une volonté des commerçants et de l'ensemble des intervenants à Toulouse, hein, que ce soit le maire, le préfet, la chambre de commerce, etc. On est tous d'accord. En revanche, on craint que ce soit un petit peu bis repetita des Champs-Élysées. Jusqu'alors, en fait, on connaissait un petit peu, maintenant on avait pris l'habitude de nos gilets jaunes, qui avaient au moins arrêté de casser nos commerces. On voit comment les groupes se former, ou des mouvements de foule. En fonction de ça, bon, on se téléphone, on se prévient de rue à rue, on se prépare. Bon, voilà. Bon, mais c'est pas une façon de faire, quoi. Puis là, en plus de ça, il y a des gars qui vont venir de partout, de toute la France, voire de l'étranger même, paraît-il. Est-ce que ceux qui vont venir vont casser ou pas? On s'attend au pire.
Et en marge de ce mouvement des Gilets jaunes, le ministère de la Justice exige des explications de la part du procureur de Nice, procureur mis en cause en raison de sa gestion controversée de l'affaire Geneviève Legay, cette militante d'attaque blessée fin mars lors de la dispersion d'une manifestation justement de Gilets jaunes.
La mise en place du réseau 5G est au cœur d'une bataille mondiale.
Destinée à succéder à la 4G, cette cinquième génération de normes pour réseau mobile fait décidément couler beaucoup d'encre et de salive. Il y a 10 jours de cela, la Corée du Sud annonçait être le premier pays au monde à lancer une couverture nationale de cette 5G. Mais la Chine et les États-Unis n'entendent pas en rester là. Et c'est ainsi que depuis la Maison-Blanche, Donald Trump a décidé de faire accélérer le processus. Washington, Grégory Phillips.
Donald Trump promet que la 5G améliorera la vie de tous les Américains, y compris de ceux qui vivent dans les zones rurales. Et pour cela, le gouvernement fédéral débloque une enveloppe de 20 milliards de dollars pour inciter les opérateurs privés à avancer plus vite vers cette technologie et à couvrir à terme la totalité du territoire des États-Unis. La 5G, on le sait, apportera des transformations majeures avec par exemple les objets connectés, les hôpitaux reliés entre eux ou encore les voitures autonomes qui pourront circuler grâce au réseau. Mais les Chinois, lancés dans la course depuis 2013, ont une longueur d'avance grâce notamment au géant Huawei qui ici inquiète. Le Pentagone, par exemple, considère que la 5G est un enjeu de sécurité nationale et qu'il faut tout faire pour empêcher le géant chinois de s'implanter aux États-Unis afin d'éviter des risques d'espionnage. C'est aussi pour cela que la Maison-Blanche accélère la cadence. La 5G est déjà testée dans quelques villes américaines. Elle devrait se développer rapidement à partir de 2020. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
À l'étranger encore, en bref, au Soudan, le chef du conseil militaire de transition qui avait pris les commandes du pays après la destitution de Omar el-Béchir a finalement décidé à son tour de renoncer au pouvoir hier soir. Il a au préalable désigné un autre militaire pour lui succéder, une décision accueillie par des scènes de joie dans les rues de la capitale soudanaise, Khartoum.
En France, tout risque de pollution massive des côtes charentaises semble désormais écarté.
C'est ce qu'a indiqué hier le préfet de Charente-Maritime à l'occasion d'une conférence de presse faisant suite au naufrage du Grande Américain le 12 mars dernier. Tout ce qui a pu être ramassé a été ramené dans le port de La Rochelle, a précisé le préfet, indiquant par ailleurs qu'un dispositif de surveillance allégé était toutefois maintenu, sachant que le littoral pouvait encore recevoir des galettes de pétrole. Une annonce qui n'a pas manqué en tout cas de rassurer le président de Charente-Maritime, Dominique Bussereau.
Cette crise a été bien gérée par l'État, qui a mis tous les moyens qu'il fallait en mer, et on a là les bienfaits de la coopération européenne, des différents paquets ERICA 1, ERICA 2, ERICA 3, ont été votés par l'Europe, c'est-à-dire qu'il y a eu des navires de toutes nationalités qui sont venus, des pollueurs, etc. Donc on a eu là une très bonne réactivité de l'État, une très bonne réactivité des moyens, et à la suite de cela, une très bonne information par le préfet de la Charente-Maritime, des communes, du département, une mobilisation des moyens. Et finalement, aujourd'hui, on se dit, on est passé à côté d'une pollution éventuelle. On aura peut-être d'ici là quelques boulettes qui arriveront un jour, mais pourront d'ailleurs avoir d'autres origines. Mais ça nous a permis aussi un exercice grandeur nature, c'est-à-dire qu'on a pu tester tous nos moyens de l'État, des départements, les barrages, la mobilisation des communes, des volontaires, etc. Et s'assurer que si un jour on avait un pépin, et c'est malheureusement arrivé, tout le monde était aujourd'hui bien organisé pour y faire face. Là, on n'a pas eu le pépin, mais l'organisation a bien fonctionné.
Dominique Bussereau, micro de Nicolas Berthaume de France Bleu La Rochelle. Après la zone B et la zone A, les vacances de Pâques commencent pour tous les écoliers des académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon ou bien encore Poitiers. Il va donc y avoir du monde sur les routes aujourd'hui, du monde et des gendarmes bien décidés à se substituer aux radars détériorés lors des derniers mouvements sociaux. Ils s'entraînent et se préparent comme des sportifs de haut niveau. Ils ménagent leur temps de sommeil et soignent leur alimentation. Ils, ce sont ces joueurs qui s'apprêtent à participer durant 10 semaines à la Coupe du Monde de Fortnite, créée il y a moins de 2 ans de cela. Fortnite est en fait un jeu en réseau qui compte déjà 60 millions d'adeptes à travers le monde et au cours duquel ses participants doivent s'affronter et ont pour mission de faire en sorte d'être les derniers survivants sur une île. Voilà, si vous aussi vous avez un adolescent qui passe ses nuits sur son clavier, dites-vous que vous avez peut-être chez vous un futur champion du monde et qu'il sera bientôt riche, n'est-ce pas, Éric Delvaux ?
On va le penser comme ça, vous avez raison, faut positiver. C'était le journal de Serge Martin.